Solio, groupe coopératif, propose que des mesures soient prioritairement et rapidement prises dans 5 axes. L'augmentation de la productivité, la progression de l'autonomie alimentaire du Québec et des exportations, le développement des régions, l'agriculture durable et la valorisation des métiers de première ligne. Ces priorités développées dans le document de Solio intitulé « Relance économique, notre vision » trouvent toutes des références dans les orientations de la politique bioalimentaire du Québec. Ghislain Gervais note que ces mesures ont toutes déjà fait l'objet de consensus à travers le secteur bioalimentaire. Donc, on pourrait rapidement agir. J'en ai discuté avec lui. Monsieur Ghislain Gervais, bonjour.
Bonjour, Monsieur Brévac.
Monsieur Gervais, on traverse une période assez difficile et le monde agricole, le monde coopératif ne fait pas exception dans ce contexte-là de la pandémie. Et c'est pas fini, donc il va falloir prendre encore des mesures et continuer de s'ajuster à des contextes qui sont tout à fait nouveaux, là. J'allais dire à la Coop fédérée, mais maintenant on dit Solio, groupe coopératif. Chez Solio, vous avez dû faire toutes sortes d'ajustements, justement, là, au cours des derniers mois, de façon à poursuivre les opérations.
Oui, effectivement. Disons qu'on est dans une époque jamais vue. C'est quand même particulier de vivre une crise comme celle à laquelle on vit depuis le printemps dernier. Il faut quand même mentionner que cette crise-là, à laquelle on est exposé présentement, fait suite à quand même plusieurs autres crises qu'on a eues dans le courant de la dernière année. Si on pense le bannissement de la viande de porc sur le marché de la Chine pendant 5 mois l'an passé, la grève du CN en décembre dernier, les blocages ferroviaires en février. Donc la crise s'ajoute déjà à une série de crises si on met en sorte que la chaîne logistique d'approvisionnement agricole et agroalimentaire est mise sous pression. Là. Nos gens ont dû faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination et d'engagement envers l'entreprise, l'organisation, les producteurs agricoles et les consommateurs pour éviter qu'il y ait des impacts, là, de minimiser les impacts le plus possible. Là.
Dans certaines de vos divisions, et là je pense tout particulièrement à Olimel, on a dû encaisser un coup en partant. Là, il y a eu infection à la COVID-19 dans certaines usines. Il a fallu réaménager toutes sortes de choses. Et ça implique à la fois beaucoup de logistique et des coûts importants. Là.
Oui, à ce côté-là, ça, je dis, nos gens ont dû faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination, dû être très agiles, qui prendre des décisions qui devaient être prises. Lorsque les cas de COVID ont apparu en grand nombre, on se devait d'agir. On ne voulait pas mettre la risque la santé de nos travailleurs de première ligne. Il fallait prendre une décision courageuse. Cette décision-là, c'était la fermeture d'une usine pendant 2 semaines de temps. C'est des choses qu'on ne fait pas voir un jour, là.
Et ironiquement, si on s'en tient au secteur du porc pour l'instant, ironiquement, le marché est relativement bon là pour le porc actuellement.
Relativement bon, c'est un peu relatif. Je vous dirais, présentement, ce qu'on vit... Oui, les marchés sont porteurs. Il y a de la demande pour la viande de porc, que ce soit au Canada ou partout à travers le monde. Présentement, nos activités d'abattage sont revenues à un proche de la normalité. Par contre, la réalité qu'on vit, c'est qu'on a dû réduire ce qu'on appelle les coupes à valeur ajoutée, ce qui fait en sorte qu'on se concentre pour limiter les impacts à la ferme en diminuant le plus possible le nombre de porcs en attente. Mais ce qui fait au détriment des valeurs ajoutées qu'on pourrait aller chercher, qu'on ne peut pas faire présentement, ça a un impact important sur la rentabilité de l'organisation, de l'entreprise, là. C'est des conséquences fortuites, là, que je dirais, de la crise de COVID-19 auxquelles on est exposé.
Si on regarde du côté de BMR, si on regarde également du côté de Solio Agriculture, là, les services et les fournitures à la ferme, là aussi, on a dû se réajuster, mais avec des impacts peut-être moins frappants, là.
Oui, les impacts sont possiblement moins tangibles, mais il y a eu des impacts aussi. Vous savez, du côté de Solio Agriculture, ben, dans les deux cas, on a pu mobiliser nos gens, on a pu les rassurer. S'assurer que ceux-ci restent à l'emploi, je vous dirais, au service de l'organisation et des producteurs agricoles pour limiter les impacts sur les différentes parties prenantes. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a dû être fait de ce côté-là pour mobiliser les équipes. Imaginez, ça va être quoi le contexte dans lequel on doit évoluer, mettre en place les mesures de distanciation. Puis il y a aussi au niveau agricole, on sait qu'il y a eu des coupures au niveau de la production de volailles, des coupures de 15% pour 2 périodes, ce qui est le volume de moulées et de poussins sont moins élevés. Il y a eu au niveau de la production laitière aussi, il y a des journées de lait qui ont été coupées. Puis des baisses de quotas, ce qui fait en sorte que les volumes sont moins importants à ce niveau-là. Il fallait aussi mettre en place les mesures de distanciation lorsque les experts conseils vont rencontrer les producteurs, les façons de faire, les bons de livraison. Du côté de BMR, ben, c'était la même chose pour les accueils en magasin. Il fallait mettre en place les mesures là, de distanciation, les mesures de protection pour les employés. Côté positif, du côté de BMR, les Québécois se sont redécouvert une ferveur pour l'achat local, les entreprises locales, et ça apparaît présentement au niveau des ventes du côté de BMR.
Il y a quand même quelques effets positifs, mais reste à souhaiter que tous ces effets positifs sur l'économie en génèrent encore davantage et que ça dure dans le temps. Et dans ce sens-là, ben, chez Solio Groupe Coopératif, vous proposez dans cette réflexion sur la relance de l'économie, vous proposez un document en 5 axes là, de développement. Si on les prend rapidement chacun, là, augmentation de la productivité, là, ça veut dire quoi là, aux yeux du président de Solio Groupe Coopératif et du groupe coopératif lui-même? Là?
Le document de réflexion, à la base, on a vécu une grande tempête. Je vous dirais que la COVID-19, c'est une situation de crise. De par notre historique de tout près de 100 ans, le Solio Groupe Coopératif, on a passé quand même à travers plusieurs crises. Le modèle coopératif, c'est un modèle qui a fait ses preuves au niveau de la résilience. Puis c'est des éléments qui ont guidé notre réflexion dans toute l'élaboration de ce document-là. Les 5 axes qu'on propose dans notre plan de relance économique, c'est oui, présentement, on vit une crise, mais il faut préparer l'après-crise. Il y a des opportunités qui se dégagent, je vous dirais, de cette après-crise-là. C'est pour ça qu'on veut faire en sorte de partager notre vision de l'après-crise, de la relance économique avec les partenaires économiques. Pour ce qui est du premier axe, de la productivité, des exemples, là, je vous dirais, concrets pour améliorer la productivité du secteur agricole et agroalimentaire, c'est des investissements des plateformes numériques. Donc, le bel exemple, c'est ce qu'on a développé, AgConnection, pour soutenir les producteurs agricoles. On est rendu à plus de 14 000 fermes connectées sur notre plateforme AgConnection. Ça fait en sorte que les producteurs agricoles ont accès à leurs données en temps réel. Ils ont accès à leur carnet de champ, leur carte de géolocalisation dans leur champ. Ça peut les aider dans le dépistage. L'expert-conseil, lui, a accès à tout l'historique de ce qui s'est passé sur la ferme. Ça aide à améliorer la production et la rentabilité des fermes. Dans nos usines de transformation de viande, ben, c'est l'automatisation, la robotisation des infrastructures. On sait qu'on vit dans une certaine pénurie de main-d'œuvre, mais la modernisation et la robotisation permet de pallier à cette pénurie de main-d'œuvre-là en partie. Parce qu'il y a quand même des tâches qu'on ne peut pas automatiser à 100%. Puis un autre exemple de choses pour augmenter la productivité, c'est la mise sur pied, la mise en place d'une zone d'innovation agroalimentaire. Écoutez, le Canada, on a quand même 37 millions d'hectares en culture. Les Pays-Bas, avec 2 millions d'hectares en culture, génèrent 11,2 fois plus de valeur agricole que nous. Donc il y a des choses qu'on peut faire, il y a quand même des opportunités qui se dégagent. Puis avec le soutien des offices de gouvernement, avec les partenaires financiers, on peut faire en sorte d'innover dans le secteur puis rendre encore plus productive dans les fermes et les secteurs agroalimentaires.
Et si on passe au deuxième axe, l'avancement de l'autonomie alimentaire et exportation. Donc, et ça, on rejoint plusieurs des visées, là, par exemple, de la politique bioalimentaire du Québec. Là.
Oui, c'est un justement des points que je voulais discuter dans ce segment-là. La politique bioalimentaire qui a été développée avec les partenaires au cours des dernières années reprend beaucoup cet axe-là. On parlait beaucoup d'augmenter les exportations dans la politique bioalimentaire, augmenter la part des aliments locaux dans l'alimentation des Québécois. Notre réflexion est basée en grande partie sur les politiques bioalimentaires qui étaient développées par les différents partenaires en collaboration avec les gens du MAPAC et le ministre de la Montagne. Mais un autre exemple qu'on peut regarder au niveau de l'autonomie alimentaire, les exportations, on peut mettre sur pied de nouvelles filières agricoles, de la production à la transformation. On voit tout le développement qui se passe présentement avec les protéines de plantes. Il y a des investissements qui se font dans l'ouest du pays. On pourrait envisager de faire des investissements au Québec aussi pour faire en sorte que des nouvelles cultures pourraient être introduites dans les champs du Québec avec la transformation au Québec pour les consommateurs québécois et canadiens. C'est des choses qui peuvent être envisagées dans ce segment d'activité-là. Ça fait en sorte aussi que ça amènerait une diversification des cultures pour les producteurs agricoles. C'est un aspect important lorsqu'on parle de développement durable, de diversifier le portefeuille de cultures pour les producteurs agricoles, pour augmenter la diversité dans les champs.
Développement de la vitalité des régions. Ça aussi, c'est un axe important et on y pense beaucoup, là, de plus en plus. Il faut que la richesse soit répartie à travers tout le Québec. Là.
Oui, c'est surtout cet aspect-là qu'on parle dans ce segment-là. Puis, le développement de la vitalité des régions a passé par la mise en place des infrastructures de télécommunications fiables et résilientes dans plusieurs municipalités. On sait que l'accès à Internet est problématique dans plusieurs régions du Québec. Ça fait en sorte que ça limite, je vous dirais, les entreprises qui pourraient éventuellement aller s'établir dans ces régions-là. Mais même aussi pour les producteurs agricoles, ça a des impacts. On sait que nos fermes génèrent de plus en plus de données. Pour utiliser ces données-là, ça prend des infrastructures de télécommunication solides et résilientes pour faire en sorte de maximiser ce qu'on peut aller chercher comme information avec ces données-là. Puis aussi le modèle coopératif là, qui est quand même une présence importante en région Québec. On est quand même Solio Groupe Coopératif, une 50aine de coopératives sous la bannière de Solio Groupe Coopératif. Puis on travaille ensemble, une présence en région. On soutient beaucoup d'emplois en région. Puis le modèle coopératif, c'est quand même un modèle important de redistribution de la richesse là, au fil des années. Au cours des 5 dernières années, Solio Groupe Coopératif, on a distribué en région aux coopératives membres plus de 238 millions de dollars. Parce que c'est quand même important le retour qu'on peut générer pour les producteurs agricoles et les familles agricoles. Mais il y a aussi, dans les régions présentes, on voit mis sur pied, il y a un premier exemple, là, la Coop Carbone, qui a mis sur pied un projet de coopérative avec un biométhanisateur, avec l'énergie ou le gaz naturel renouvelable, ce qui fait en sorte que c'est une nouvelle filière qui est en train de se mettre sur pied, où ce que les producteurs ont accès à une nouvelle filière de production puis prendre une participation dans une chaîne de valeur.
Et tout ça doit se faire, et ça c'est le quatrième axe, là, doit se faire dans le soutien d'une économie durable.
Oui, c'est le soutien de l'économie durable. Comme je disais tantôt, les cinq axes sont tous interreliés. L'économie durable, l'agriculture durable, on est présentement en transition. On doit passer d'une agriculture intensive à une agriculture écologiquement intensive. Mais pour y arriver, ça va prendre la numérisation de l'agriculture encore plus. On va développer des outils, il faut apprendre plus l'agriculture de précision pour vraiment faire des traitements localisés seulement dans les zones de choses qui en ont de besoin. Pour améliorer tous les circuits d'approvisionnement courts, les circuits courts qu'on appelle les circuits locaux. Il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour favoriser les circuits locaux, la mise en place de fermes, de petites fermes. On ne peut pas opposer la grande agriculture et la petite agriculture, parce que les deux types d'agriculture répondent à des attentes et des besoins des consommateurs. Les consommateurs, ils sont Québécois, ils sont Canadiens, ils sont dans les autres pays. Mais c'est toutes des choses, des initiatives qui se mettent en place. Puis la promotion de ce modèle coopératif et tout, avec la présence forte en région, c'est un atout qu'on a au Québec. On a un modèle coopératif qui est fort, qui a une présence importante dans le secteur agricole et agroalimentaire. Puis la redistribution de la richesse, c'est quand même un volet important de l'agriculture québécoise à ce niveau-là.
Et tout ça en valorisant là, les métiers de première ligne. Et ça, on se trouve dans le cinquième axe. Là.
Oui, c'est sur le cinquième axe, la valorisation des métiers de première ligne. Vous savez, la pandémie a mis en évidence le besoin, la nécessité de travailleurs de première ligne. C'est quelque chose qu'on a reconnu tout le monde. Pendant cette pandémie-là, on a vu des choses qu'on pensait comme acquises être mises à risque par le fait qu'il manquait de monde pour travailler. Ça fait en sorte que les métiers de première ligne, c'est quand même un volet important pour la relance de l'économie. Il y a des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité économique présentement. Il faut valoriser l'attraction du travail en région. Il faut que les gens quittent les grands centres pour aller travailler en région. Il faut avoir des outils, des mesures de support à l'immigration en région. Parce que souvent, c'est l'intégration économique à la société québécoise passe par l'immigration, l'intégration économique des nouveaux des immigrants passe par le travail, l'emploi. Il faut mettre en place des mesures, des supports pour faire en sorte de rendre le travail en région plus intéressant pour ces gens-là. Ils ont un rôle à jouer. On a besoin de ces gens-là, mais il faut rendre le travail en région encore plus intéressant.
Et tout ça, M. Gervais, ça constitue là un rappel urgent de toutes sortes de choses qu'il faut absolument faire pour développer, continuer de développer l'économie agricole au Québec, l'économie agroalimentaire, éviter qu'elle subisse des conséquences qui seraient durables dans le temps là, en raison d'une circonstance comme la pandémie. Est-ce que vous estimez que le cadre d'application ou de mise en œuvre de la politique bioalimentaire du Québec, dont on parlait il y a quelques instants, est-ce que vous estimez que le cadre de cette politique-là peut justement permettre d'accélérer des choses comme celle que vous proposez là?
Oui, je pense que le cadre de la politique alimentaire est toujours d'actualité et quand même très conséquent, très à la bonne place parce que je vous dirais, la politique a été élaborée en partenariat avec les différents partenaires. Donc là, oui, il y a une crise, la COVID-19 qu'on vit présentement. On a vu une certaine fragilité dans certains segments. Puis s'il faut modifier ou bonifier la politique alimentaire dans le sens de rendre la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire plus forte et plus résiliente, on a l'opportunité de le faire, je crois. Là. Ce qu'on propose, les cinq axes, comme je vous dis, sont tous interreliés. Par contre, ça ne demande pas des investissements colossaux. C'est surtout des mesures ciblées au bon endroit, au bon moment, qui vont permettre de faire en sorte que la reprise va être plus facile, va être plus rapide, mais surtout que ça va générer des retombées partout en région, aux différents partenaires, puis aux producteurs agricoles, aux entrepreneurs agricoles, ainsi qu'aux transformateurs.
Chose certaine, il faut que des choses se fassent et rapidement. Là.
Oui, on sait qu'on doit relancer l'économie assez rapidement. C'est des mesures qui sont ciblées, qui sont précises, qui vont avoir des retombées rapidement aussi. Là.
Bien, écoutez, M. Ghislain Gervais, merci pour ce tour d'horizon. Et puis, bien, très certainement qu'on aura l'occasion de se parler de nouveau de l'évolution là, de ces différents dossiers-là, en espérant que, justement, là, ça bouge et assez rapidement.
Très bien. Merci, M. Levac.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Ici Lionel Levac. La crise causée par le virus COVID-19 n'est pas terminée. Elle peut encore apporter de mauvaises surprises. À plus forte raison, donc, il faut mettre en place rapidement un train de mesures pour relancer où il le faut les activités et soutenir du véritable développement dans une perspective à long terme. Et tout cela en tirant les leçons appropriées. Au revoir.